Bienvenue dans Entrepreneur et en forme, bulle de conscience et action. Je suis Cédric Meunier, entrepreneur, coach et personal trainer depuis de nombreuses années. Et j'ai fait de ma mission d'accompagner les entrepreneurs à impacter avec plus de clarté sans y laisser leur santé. Je vous partage chaque semaine, seul ou avec mon invité, des clés concrètes pour comprendre ce qui vous bloque et ce qui vous porte. Allez, c'est parti!
On va ravi de t'accueillir Stéphane sur le podcast. Pour moi, c'est un très chouette moment et puis je suis heureux de te faire découvrir, on va dire, aux gens qui ne te connaissent pas encore. Bienvenue.
Écoute, merci Cédric. Très heureux moi de participer à ton podcast et très curieux des questions que tu vas me poser, des sujets qu'on va pouvoir aborder.
J'ai mis en description un petit peu le sujet et de quoi on va parler aujourd'hui, parce que moi je le sais un petit peu à l'avance, mais on va voir vraiment où nos discussions vont nous mener. Alors bien sûr, ça va autour du sujet de l'entrepreneuriat, de tout ce qui peut s'y passer, et c'est assez divers. Puis bon, c'est vrai que nous on se côtoie souvent, donc je suis vraiment heureux de pouvoir partager ça avec un plus grand nombre. Et tu vois, la première question que je vais te poser, elle n'a rien à voir avec tout ça, c'est: peux-tu nous dire une chose que peut-être moi, alors peut-être que je connais déjà, mais qu'on ne connaît pas sur toi? Une chose qu'on ne connaît pas sur toi. Surtout pour ceux, en tout cas, qui partagent ton quotidien ici dans le monde du travail.
Peut-être j'ai eu un parcours un peu atypique et un peu sinueux, et j'ai un passé assez intéressant de scientifique. Je suis à la base ingénieur chimiste, et puis j'ai soutenu une thèse sur le changement climatique, hein, il y a déjà quelques années. Et donc je pense que c'est effectivement quelque chose qui, du coup, que les gens ne me pressentent pas en me rencontrant, puisque du coup j'ai pas mal bifurqué depuis ces années-là.
Oui, alors du coup, attends, de la chimie à l'entrepreneuriat, il va falloir que tu nous expliques un petit peu là, hein, le grand saut, il est où aujourd'hui? Tu as donc moi je le sais un peu, mais tu vas nous l'expliquer. Tu as une, deux, trois entreprises, différents lieux. Enfin, en quelques mots, déjà ce fameux saut: je fais de la chimie, je suis vraiment là-dedans, quelque chose de très carré qui t'amène dans une voie qui a un petit peu aucun rapport avec celle d'aujourd'hui.
Alors, tu veux la version longue ou la version courte?
Allez, c'est toi qui choisis.
On va faire une version intermédiaire. En fait, il n'y a pas vraiment eu de grand saut, je pense, en l'analysant, en y réfléchissant, en te répondant, mais il y a eu plusieurs petits sauts, en fait, qui, je vois ça plutôt comme un parcours.
Alors excuse-moi, je te coupe juste avant pour tous ceux qui nous écoutent. Peux-tu dire peut-être juste aujourd'hui, où t'en es, ce que tu fais, tout ce que tu gères, et après nous dire un peu ce fameux saut.
Oui, d'accord. Écoute, aujourd'hui, j'aime à me présenter comme un gestionnaire de tiers-lieux et un animateur de communautés professionnelles. En fait, moi, mon travail aujourd'hui consiste à concevoir d'abord, à mettre en place et à animer des lieux d'hébergement professionnel, donc des espaces de coworking, un centre de santé et de médecine douce, par exemple, où je vais pouvoir permettre à des professionnels de s'installer, donc de bénéficier de toute une offre de services autour de leur hébergement professionnel, hein, des bureaux, des salles de réunion, des salles de consultation, tous les services environnés, hein, des services d'internet, d'impression, du petit matériel pour les aider à travailler, en gros un peu de la conciergerie si tu veux, mais adapté au monde de l'entreprise, et surtout, leur donner un accès à un réseau de professionnels, puisqu'en fait, la grande force de ces espaces, c'est de réunir au même endroit des professionnels, des entrepreneurs, et donc ça leur donne l'occasion de faire des rencontres, de multiplier les opportunités, et donc de les aider dans le développement de leur business. Donc voilà quel est mon métier aujourd'hui.
Alors, petite chose, hein, c'est un petit peu tout sauf juste des bureaux, ce que tu proposes.
Alors c'est exactement ça, en fait. Certains qui ne s'intéressent pas beaucoup ou de très loin à la question nous voient comme comme des bailleurs, comme des loueurs de bureaux, mais en fait, c'est surtout pas ce qu'on est. Nous, la valeur ajoutée, en fait, si tu veux, la question de l'hébergement professionnel et de l'offre de bureaux, de salles de réunion, n'est finalement presque qu'un prétexte pour faire venir ces entrepreneurs. Nous, ce qu'on a vraiment de riche à leur offrir, c'est toute la valeur ajoutée des services qui vont derrière. Alors, c'est effectivement les services de gestion au quotidien, de tout ce qui peut être lié à la bonne marche d'un local professionnel, hein, le ménage, l'internet, le réseau, les impressions, etc. Mais c'est surtout en fait les contacts et les opportunités professionnelles qu'on va pouvoir leur offrir, plus toutes les animations qu'on met en place. Après, on aura peut-être l'occasion d'en parler puisqu'on le fait ensemble, etc. La Rooftop Business Academy, qui est pour moi quelque chose de vraiment riche, où on va leur permettre de les faire monter en compétences sur leur métier d'entrepreneur. Donc, c'est tout ça, en fait, qui est vraiment intéressant. Et finalement, la partie bureau, hébergement professionnel qui les fait venir, eh ben, c'est vraiment la face immergée de l'iceberg, en fait, finalement.
Merci pour cette présentation, je pense, très riche. Alors, du coup, ce saut de la chimie à l'entrepreneuriat.
Alors, il y a eu plusieurs sauts. Du coup, moi, j'ai toujours, depuis ma plus petite, alors pas depuis mon enfance, mais on va dire depuis l'âge de 14-15 ans, je voulais faire de la chimie. Ça m'intéressait, apprendre la chimie, etc. C'est quelque chose qui me bottait bien, etc. Et donc, petit à petit, mon cursus m'a amené à faire un bac scientifique, à faire des classes préparatoires et puis à intégrer une école de chimie. Donc, j'ai eu la chance d'intégrer une belle école de chimie d'ingénieurs chimistes à Strasbourg qui était très sympa parce qu'au-delà de... Au-delà vraiment du métier de chimiste, c'était une école européenne et déjà il y avait des mélanges avec plein d'étudiants qui venaient d'un peu partout en Europe. Donc ça, c'était super. Et puis, les études m'intéressaient bien. Et puis, plus ça avançait et en faisant des stages, etc., plus je m'en rendu compte que d'être ingénieur chimiste dans la grosse industrie chimique, les grosses boîtes de pétrochimie, les laboratoires de biochimie, etc., les fabricants de médicaments, etc. Finalement, les postes étaient peu épanouissants et je ne me voyais pas faire ma carrière dans ce domaine-là, finalement. Donc, à cette époque-là, en fait, puisque ça commence déjà à remonter à quelques années, on était, nous, obligés de faire le service militaire. Donc, j'ai eu un peu cette chance, en fait, que le service militaire, après l'obtention de mon diplôme d'ingénieur chimiste, m'a donné un an de césure, on va dire, pour me permettre de me poser les bonnes questions et de me dire, qu'est-ce que je fais maintenant? Et plutôt que de rentrer dans l'industrie chimique, en fait, je me suis dit que qu'est-ce qui t'attire et ce qui m'intéressait, c'était la matière, les études, apprendre, etc. Et donc, la voie la plus évidente, c'était de continuer sur un doctorat. Et du coup, j'ai eu la chance d'être pris d'abord dans un DEA. À l'époque, on appelait ça un DEA. Maintenant, on appellera ça un master recherche. Et puis ensuite, d'obtenir une bourse pour pouvoir financer une thèse en physico-chimie de l'atmosphère et à travailler sur des problématiques de changement climatique. Et donc, voilà, je me suis orienté. Le premier saut, c'est que je suis passé du coup de ingénieur chimiste à plutôt le monde de la recherche. Donc ça c'était ce premier saut et puis après mon doctorat aussi c'est reposer la question de se dire qu'est-ce que j'allais faire. Alors il se trouve que comme j'avais fait déjà pas mal d'études, 3 années de classe prépa, un diplôme d'ingénieur chimiste plus l'armée, j'ai soutenu ma thèse, j'avais déjà 30 ans. Et à 30 ans, on se dit, on a envie de se poser un peu et de se dire, maintenant, on a envie de gagner sa vie, de s'établir avec son conjoint, de construire aussi sa vie personnelle. Et continuer dans la recherche, ça voulait dire encore de l'incertitude, pas être certain d'avoir un poste dans les grands organismes publics de recherche, etc. Et donc, il y avait de l'incertitude. Et il se trouve que j'ai été amené en fin de thèse un peu par hasard, à être en contact proche avec un cabinet de conseil qui a appris à me connaître, à connaître mes compétences, surtout mon savoir-être, etc., et qui m'a proposé un poste. Mais un poste pas du tout dans la recherche, pas du tout dans la chimie, pas du tout dans les sciences, un poste qui consistait à faire des évaluations de politique publique. Donc, monde nouveau qui s'offre à moi, on me propose un poste, je ne sais pas trop si je vais continuer dans la recherche ou pas, moi, d'un naturel plutôt curieux et attiré par ce monde que je ne connaissais pas, ben, j'ai dit banco, on y va. Et du coup, j'ai été deuxième saut. En fait, je suis passé de la recherche à intégrer un cabinet de conseil qui faisait de l'évaluation de politique publique. Donc voilà. Donc ça a été ma vraie, vraie première expérience professionnelle. Et puis, il se trouve que par opportunité, en fait, je suis passé de salarié à associé, en fait, dans cette boîte. Ça a plutôt bien marché. Et j'y suis resté 8 ans. Et au bout de 8 ans, j'ai commencé du coup à me flétrir un peu parce que même si j'étais associé, en fait, bah, le gérant ne me laissait pas, ne me donnait pas suffisamment de billes pour développer, moi, ce que j'avais envie de développer au sein de cette boîte. Et donc, je me suis dit, bah, bingo, puisque tu n'arrives pas à le faire au sein de la structure dans laquelle tu es, crée ta propre activité, mets-toi à ton compte et tu crées ton activité.
La soif de liberté était plus forte, on dirait.
Ouais, c'est ça. En
C'est
fait,
ça. Ouais.
c'était surtout l'envie de. Je me sentais dans une impasse, en fait, avec un espèce de plafond au-dessus de moi, et je me disais, bah, si tu continues comme ça sera comme ça encore pendant les 20 prochaines années. Et je voyais pas trop de perspectives. Et du coup, la seule perspective que j'ai vue à cette époque-là, c'était de créer ma propre activité pour me créer mon propre travail. Alors, c'était parti aussi sous un constat. Alors, maintenant, professionnellement, c'est courant. On admet qu'on peut bouger d'un domaine à l'autre. En fait, on a plusieurs vies professionnelles les unes après les autres. À cette époque-là, c'était moins courant. Et du coup, quelqu'un qui a fait des études scientifiques, qui est ingénieur chimiste, qui a jamais été ingénieur chimique, chimiste, pardon, dans l'industrie, qui s'est orienté vers une thèse, qui a pas fait de recherche, qui a fait de l'évaluation de politique publique, tu arrives sur le marché de l'emploi, tu te dis, mais les gens qui vont lire mon CV vont se dire, mais ce gars-là,
Il s'est perdu.
il s'est perdu plusieurs fois, il sait pas où il va, etc. Et donc, j'étais convaincu moi-même que j'étais inemployable et que si tu veux, je n'avais pas ma place sur le marché de l'emploi. Et c'est ce qui aussi m'a convaincu de me créer mon propre poste, en fait. Et donc, en 2008, ça remonte déjà à 14 ans, j'ai créé ma propre société, Provaltis, qui existe toujours et qui était centrée sur un mix de ce que j'avais fait jusqu'avant, qui était une agence de valorisation d'informations scientifiques et techniques. C'est-à-dire que je m'appuyais à la fois sur les capacités de conseil et d'évaluation de politique publique que j'avais acquises dans ce premier cabinet, et à la fois mes capacités à rentrer facilement sur des sujets scientifiques et à les vulgariser. Voilà, donc ça a été l'autre saut et le vrai grand saut vers l'entrepreneuriat. Puisque du coup, là, du jour au lendemain, je suis passé gérant d'une SARL. Voilà, j'étais dans le grand bain. Donc ça, étape, donc en 2008. Et puis, alors c'est aussi l'ironie un peu de l'histoire, c'est que moi j'avais, comme je te le dis initialement, créé cette société uniquement pour me créer mon propre poste. Eh ben, manque de bol, la société a bien marché. Très vite, j'ai répondu à des marchés publics, j'ai eu des gros marchés et au bout d'un an, j'ai été obligé d'embaucher. Et donc, la donne a changé. Donc, j'ai dû, du coup, en fait, j'étais installé dans des bureaux, dans une ancienne chambre chez moi que j'avais à mon domicile, que j'avais réaménagé. Et j'ai dû, du coup, me trouver des locaux professionnels. Donc j'ai intégré un centre d'entreprise et pour pouvoir embaucher des personnes. Et puis petit à petit, donc entre 2009, j'ai eu mon premier salarié en 2009 et jusqu'en 2014, j'ai eu jusqu'à 6 salariés en fait.
Parce que je te coupe un instant, ce que tu appelles un centre d'entreprise, c'est ce qu'on appelle les hôtels
Les hôtels
d'entreprise où il y a des
d'entreprise,
multi-bureaux,
voilà, c'est
parce
ça.
que je vois les prémices de la suite.
Voilà, mais en fait, du coup, ce que j'ai fait après est parti de constats et de vécu, d'expériences que j'ai vécues, en fait. Voilà. Donc, j'ai été amené à recruter, du coup, à avoir une équipe jusqu'en 2015. Et puis, à cette époque-là, j'ai commencé à me reposer des questions. Donc, j'avais une entreprise qui marchait très bien en termes financiers, hein, qui rentrait du chiffre d'affaires, qui faisait du bénéfice, etc. Mais il y avait plusieurs choses qui ne me plaisaient pas. La première chose, c'est que je me retrouvais, sans l'avoir vraiment voulu et vraiment cherché, à la tête d'une équipe de 6 salariés, Avec mon profil très ingénieur, très recherche scientifique, etc. Donc pas du tout formé à des méthodes de management, d'accompagnement, de ressources humaines, etc. Et donc j'ai sûrement été amené à faire beaucoup d'erreurs, etc. Et il y avait du coup beaucoup de dysfonctionnements et je me sentais déjà pas à ma place à manager une équipe comme ça et parce que je ne m'en sentais pas finalement les compétences. Et puis je commençais déjà à avoir certaines conséquences. Ça fonctionnait pas bien avec certains de mes salariés, etc. J'arrivais pas à trouver la cohésion que je cherchais dans mon équipe, etc. Et donc ça me gênait profondément. Et puis ça m'éloignait, moi, de ce qui m'intéressait, c'est-à-dire le fond des dossiers, le cœur du métier, accompagner mes clients sur de la valorisation d'informations scientifiques et techniques. Je le faisais de moins en moins parce que du coup, j'avais à manager une équipe. Et mon métier changeait aussi, donc ça me plaisait pas trop. Et puis même au sein de mon métier, ben je travaillais, ça faisait déjà donc une petite dizaine d'années, 8 ans que je travaillais avec des grands comptes publics, avec des rapports clients-prestataires assez guindés, aller souvent à la défense, costard-cravate, etc. Et je m'y retrouvais pas en fait. Et du coup, je me sentais pas aligné avec certaines de mes valeurs et pas en cohérence avec certaines de mes compétences. Et donc ça, je l'ai pressenti à partir de 2014, etc. Et je me suis posé des questions sur réorienter les missions de mon entreprise et moi, mon rôle au sein de cette entreprise. Et il se trouve que comme l'entreprise finalement marchait très bien, dès 2012, on a investi dans nos propres locaux. Donc on a quitté l'hôtel d'entreprise qui nous hébergeait et puis on a investi dans des locaux qui faisaient 100 mètres carrés, donc même à 6, 7 personnes, étaient beaucoup plus grands que ce dont on avait besoin. Et comme j'avais entendu parler des prémices de tiers-lieux en France, ça commençait tout juste à arriver à Paris, mais j'avais fait des évaluations de politique publique sur des opérations qui avaient eu lieu en Californie, en Australie, au Royaume-Uni. La question du coworking ne m'était pas inconnue et m'intéressait beaucoup et me titillait. Et donc, dans ces locaux qui appartenaient à ma société, je me suis dit, mais pourquoi pas tester ça? Et c'est comme ça que j'ai commencé à proposer à des entrepreneurs de venir partager des postes de travail ou des bureaux au sein de mes propres locaux, où j'avais mon agence de com, mes salariés, et à côté, j'avais des entrepreneurs qui venaient, en fait, où je mutualisais mes locaux. Donc ça a commencé, le premier est arrivé en 2013, hein, dès 2013, et puis c'est monté petit à petit, etc. Et puis, quand j'ai commencé vraiment à cogiter sur mon activité, en 2015, je me suis dit, ça marche super bien. C'était vraiment très intéressant cette première expérience de coworking parce que moi, ça me plaisait. Du coup, ça me reconnectait avec l'humain, avec des entrepreneurs, etc. Ça me sortait de mon quotidien sur ma propre activité. Et puis, j'avais pas de mal à trouver des gens qui s'intéressaient de venir partager les locaux. Et surtout, ces gens qui venaient, je sentais un vrai bonheur de venir et une vraie valeur ajoutée que je leur apportais parce que eux-mêmes, du coup, ça permettait de rompre l'isolement professionnel, ça permettait de discuter, de prendre le café avec un collègue à la machine à café, d'échanger sur leur activité, sur leur business, etc. Donc, je voyais que c'était quelque chose qui intéressait vraiment. Et donc, voyant ça qui marchait bien, qui, moi, me plaisait bien, et en plus, avec toutes les questions que je me posais sur mon activité historique, etc., je me suis dit, Stéphane, il faut creuser cette piste. Et du coup, j'ai réfléchi, j'ai cogité, et ça m'a amené à créer, dès 2016, un premier espace de coworking qui s'appelle Un Bureau et Plus, qui est situé à Juvisy, dans d'autres locaux. Donc, j'ai investi dans d'autres locaux pour y ouvrir un vrai espace de coworking avec pignon sur rue et une vraie offre de coworking. Et c'est comme ça qu'est vraiment née officiellement l'aventure du coworking. Et donc en parallèle, également en 2016, j'ai recyclé mes anciens locaux qui étaient utilisés initialement par mon agence de communication et j'en ai fait un centre de médecine douce, avec l'aide de certains de mes coworkers qui étaient déjà là depuis quelques temps. Et puis voilà comment l'aventure a démarré. Et puis ces lieux, en fait, ont tout de suite très bien vécu, se sont bien remplis, etc. Et puis j'ai été rapidement frustré par le fait que ça se remplisse et j'ai été obligé de refuser du monde. Les locaux avaient aussi certaines particularités qui faisaient que je pouvais pas forcément y organiser les événementiels et faire les animations que je voulais. Et donc, dès 2019, je me suis mis à chercher activement, même dès 2018, à rechercher activement un local plus grand pour ouvrir un espace encore plus grand. Et c'est comme ça qu'est né le troisième espace de coworking, le rooftop de Viry, que tu connais très bien Cédric, que tu fréquentes tous les jours et que tu contribues énormément à enrichir, et qui a ouvert officiellement le 4 février 2020. Donc voilà l'histoire. Bon, je t'avais dit que j'essaierais de faire un peu près court, j'ai pas réussi. Mais voilà en fait les différents sauts, les différentes mini-ruptures qui m'ont amené où j'en suis aujourd'hui.
Alors, merci beaucoup. Je sais que tu connais le podcast et dans le podcast, l'idée est bien sûr le partage et puis d'apporter, tout le monde cherche un petit peu des clés, des astuces. Et dans ce que tu nous racontes, il y a quelque chose qui est assez génial sur ton parcours, c'est qu'on voit plein d'étapes où à chaque fois, tu t'es reposé des questions. T'es pas resté à t'enfermer, à attendre. Alors moi, j'ai envie de te poser comme question, comment tu as réussi toujours à pas rester justement coincé, à avoir cet élan qui est reparti et à grandir et aller vers, bon après tu nous as donné une partie de la réponse, aller vers un petit peu plus tes valeurs, c'est ce que tu nous en as parlé. Alors voilà, on voit vraiment les étapes à chaque fois, bam, tu passes une étape, tu grandis, tiens, hop, ça, tu t'épanouis plus. Comment ça se passe? Et si tu devais donner du coup un conseil, tu as parlé de recul, tu as parlé de réflexion, en parlant déjà de pendant ton armée, ça a été un moment où tu as pu te poser les bonnes questions. Ouais. Alors, si on va un petit peu en profondeur de ta réflexion, qu'est-ce qui a fait tous ces changements? Comment tu pourrais aider là, nos auditeurs quand ils ont besoin d'évoluer?
Alors, c'est pas évident de répondre à cette question, mais il y a quelques éléments de réponse que je peux peut-être t'apporter. Je pense, et ça, on a chacun notre caractère, et déjà, notre propre caractère joue beaucoup, et moi, je pense que j'ai un naturel qui m'a aidé là-dedans, c'est que je suis très curieux. J'aime bien les nouvelles expériences, etc. Peut-être que je m'embête assez vite. La routine me lasse en fait assez rapidement et du coup ça m'aide plus facilement peut-être que d'autres à imaginer assez rapidement le coup d'après si tu veux. Je vois ma vie comme un éternel mouvement et du coup comme justement une série de marches à franchir et pas forcément de plateau mais plutôt des marches d'un escalier.
Donc ce que tu es en train de nous dire c'est que le premier levier qui pourra aider, c'est ce côté garder de la curiosité, garder de l'ouverture d'esprit.
C'est ça, c'est de l'ouverture, c'est en fait s'ouvrir aux opportunités et ne pas se mettre d'œillères et rester les chakras ouverts en fait et accueillir en fait les opportunités qui se présentent. Et si vous faites attention, des opportunités, il en vient tous les jours, partout. Alors il y en a sur 1000, il y en a 999 à jeter. Mais il y a la millième qui va être la bonne ou qui va te traîner et te sortir peut-être de l'impasse où tu es. Voilà. Donc moi, à chaque fois que j'ai cru me situer dans une impasse ou en tout cas dans des limites par rapport à mon développement, je me mettais en position d'écouter des opportunités et de voir là. Voilà. La question du coworking, par exemple, moi, c'est des sujets auxquels j'ai été confronté dès les années 2005, hein, si tu veux, mais sur où j'ai travaillé pour le compte d'un client sur des questions pour étudier les effets vertueux environnementaux du coworking et des espaces, des nouvelles pratiques de travail. J'aurais pu laisser ça sur un plan purement intellectuel, mais voilà, je sais que moi, je l'ai laissé dans un coin de mon cerveau, ça a mouliné, machin, etc. Et puis, je l'ai confronté à mes expériences. Travailler un an tout seul chez soi à côté de sa cuisine. Je vais te raconter une anecdote, mais à cette époque-là, quand je travaillais tout seul chez moi, j'étais super content quand j'avais un courrier à aller mettre à la poste parce que ça me permettait de rencontrer du monde.
De sortir.
Voilà. Donc, si tu veux, ça en dit long sur l'isolement professionnel et la manière dont ça te flétrit. Donc, ça, c'est une des premières expériences. Le fait d'avoir atterri dans un hôtel d'entreprise, mais qui m'offrait pas mal de conditions matérielles, un bureau, etc., mais dans lequel j'avais tout à gérer, tous les services à gérer, ou quasiment, pour lesquels toutes les portes étaient complètement fermées. En fait, on travaillait les uns, non pas avec les autres, mais à côté des autres. Donc, on connaissait quasiment pas son voisin ou la personne de l'étage du dessous, où il y avait très peu d'animation, etc. Donc ça, c'est un peu, voilà, je l'ai engrangé, ça a fait tilt dans ma tête, en fait, si tu veux. Et donc, l'idée, c'est de se nourrir de ces expériences et de s'ouvrir le champ des possibilités. Ça, c'est vraiment une première chose. Et le deuxième conseil que je dirais, c'est d'être, c'est surtout de s'écouter et d'essayer d'être, je vais dire, pour toi qui es coach, ça te semble une évidence, mais c'est d'être aligné avec ses valeurs. Donc, ça veut dire de connaître ce qui est important pour toi, quelles sont tes valeurs, et du coup, d'agir en conséquence pour retrouver cet alignement quand tu l'as perdu. Moi, je vais te le dire, sur mon exemple et pourquoi je suis passé de ma société qui fonctionnait plutôt bien en valorisation d'informations scientifiques à la gestion d'espaces de coworking, double constat, ça allait pas bien avec mon équipe, avec mes salariés, et moi, je suis très tourné vers le relationnel et vers l'humain. Et du coup, je me sentais, par rapport à cette situation, constamment en échec. Et du coup, il fallait que je quitte cette situation d'échec. Il fallait que je trouve une solution pour m'en affranchir. Et c'était pourtant à une époque où on n'avait pas de mal à trouver des clients, on avait un super chiffre d'affaires, on faisait des bénéfices. Donc, si tu veux, et du coup, dans la balance, c'était est-ce que le plus important, c'est de faire du chiffre d'affaires et du bénéfice, ou c'est d'être quitte à être en confrontation des fois ou pas en accord avec tes salariés, avec ton équipe, que tu as sous les yeux tous les jours et avec qui tu as des relations, etc. Ou est-ce que c'est plutôt de soigner ta relation à l'autre, quitte à mettre en péril ton chiffre d'affaires. À un moment donné, j'ai mis les deux dans la balance. Et moi, pour moi, le plus important, c'était de faire ce choix-là. Alors, je ne dis pas que c'est bon. Pour moi, c'était le meilleur. Mais pour d'autres, ça sera un autre choix. Mais il faut se permettre de se mettre dans les conditions de faire ces choix-là. Et donc, d'objectiver les choses et de mesurer le pour et le contre. Alors,
il y a quelque chose que tu as dit qui est très, très, très important. Il y a une phrase terrible que tu as dit. Il faut se permettre, s'autoriser à se mettre dans les choix. Tu peux nous répéter cette phrase, comme tu l'as dit?
Oui, c'est ça. Il faut se permettre de se donner les possibilités, en fait, de faire ses propres choix, en fait.
Ça, c'est vraiment important.
C'est important et je me rends compte au quotidien que c'est pas si évident que ça. Parce que on est prisonnier des habitudes, des pressions sociales. Stéphane, aujourd'hui, tu as 6 salariés et tu vas vers un modèle où tu vas te retrouver tout seul ou machin. Mais du coup, ça veut dire que ça marche mal dans ta société ou le regard de l'autre, la pression, ce qui est habituel. J'ai eu les mêmes remarques quand j'ai décidé d'abandonner la recherche. Ah bon, Stéphane, tu vas aller travailler dans un
vu le saut.
Voilà, alors que tu pourrais être peut-être chercheur au CNRS ou oui, mais peut-être. Et je sais ce que c'est que la vie d'un chercheur au CNRS et c'est pas forcément ce que je recherche non plus. Et donc voilà, donc c'est à un moment donné, et il y a des choix qui sont pas faciles à faire, mais en fait, du moment où tu es aligné avec ce que tu es, c'est quand même beaucoup plus facile, et au final, tu y gagnes. Il y a autre chose aussi, c'est qu'au bout d'un moment, ton corps parle. Et donc, t'as beau te dire que, mais non, avec tes salariés, tu vas t'en sortir, mais non, c'est super bien que tu gagnes tant de chiffres d'affaires et que tu valorises ta société, etc., et que les conditions matérielles soient réunies, etc., c'est super bien. Mais quand le matin, tu te réveilles, que tu as mal au ventre, que tu trembles comme ça avant d'avoir un entretien avec un de tes salariés, là, ton corps parle et te dit au bout d'un moment, mais est-ce que ça va durer longtemps comme ça? Et donc, là, pour moi, en tout cas, tu n'as plus le choix, quoi.
C'est vraiment l'écoute qui revient un maximum sur...
Ouais, s'écouter soi-même. S'écouter soi-même et se donner l'autorisation, se permettre des choses.
Ben, pareil, curiosité, se permettre de faire des choses et la fameuse écoute de toutes les opportunités. Voilà, y a peur ou pas peur, toi tu y as été en tout cas.
Ah, il y a eu de la peur. Il y a eu de la peur, mais la peur de stagner était plus forte. En fait, voilà, il faut confronter les peurs, en fait. En industrie pharmaceutique, on appelle ça une analyse bénéfice-risque. Et ben voilà, il faut faire l'analyse bénéfice-risque de tout ce que, toutes les options qui s'offrent à soi. Et par contre, il faut se mettre en condition d'avoir plusieurs options. Si on reste avec des œillères et toujours avec le même schéma de pensée en se disant « bah, de toute façon, moi, je suis scientifique, j'ai été formé à ça, je serai scientifique toute ma vie. » Bah, peut-être, c'est peut-être bien, et il y a des scientifiques qui se réalisent, et il y en a eu, voilà, et c'est super bien. Mais si à un moment donné, ça coince, etc., bah, il faut aussi t'offrir des portes de sortie et des voies alternatives.
Alors, avec, donc aujourd'hui, tu me disais que tu gères trois lieux. Question pratique, tout le monde parle du temps, de courir après le temps, de j'ai pas le temps, de tout ça. Toi, comment tu gères ton temps, tes trois lieux? Tu as une équipe sur le rooftop. Sur les autres lieux, tu as des personnes?
Alors, j'ai pas de personne en place, mais en fait, on est une équipe tournante, en fait. Et du coup, on se relaie, en fait, pour aller faire des permanences, on appelle ça des permanences, sur chacun des sites pour pouvoir assurer un minimum de services et être en présentiel sur les sites.
Alors, en quelques mots, toi, qu'est-ce que tu pourrais dire sur la gestion du temps à un entrepreneur? Parce que tout, c'est un petit peu un sujet central.
Ah, la gestion du temps. c'est un sujet qui est compliqué pour tout le monde. Hein. Chaque particulier a aussi des problèmes à gérer son temps à la maison, au domicile, etc. Mais je pense que c'est un problème particulièrement épineux pour un entrepreneur. En fait, il faut, pour gagner du temps, il faut accepter d'en perdre. C'est un peu contre-intuitif. Mais en fait, le temps, c'est comme de l'argent. C'est un moyen et c'est un investissement. Et du coup, si j'investis dans un certain temps, je vais en gagner ensuite plus tard. Mais le problème de beaucoup d'entrepreneurs qui sont pris dans la frénésie du quotidien, les sollicitations, la charge mentale qui est prise par « il faut que je paye telle facture, il faut que je prépare telle échéance, etc. » Et ben du coup, tu as l'impression que tu ne peux pas faire de pause et que tu ne peux pas que tu ne maîtrises pas ton temps finalement, que ton temps t'est imposé par les événements, etc. Et donc, c'est ça la grande difficulté. Alors, la question corollaire qui se pose, c'est comment tu fais pour t'en apercevoir et du coup, prendre le contre-pied de ça, c'est pas évident. Mais en fait, c'est comme tout, il faut essayer. Donc, il faut arriver à s'accorder des moments de recul qui te permet en fait de repartir mieux, plus vite ou de meilleure qualité et au final de gagner du temps. Et ces temps de recul, il faut les organiser. Ça peut être une heure de sport de temps en temps, ça peut être, je vais te citer un exemple, hein. Hier on a fait un séminaire avec mon équipe. On a consacré une journée entière à quatre en off, c'est-à-dire que on s'est organisé pour ne pas travailler, en tout cas ne pas produire pendant une journée. Et du coup, moi je connais plein d'entreprises, et d'ailleurs moi-même il y a 10-15 ans, je me dis mais non, mais ça coûte énormément à la société, et puis on peut pas se permettre, et puis on va avoir des demandes clients, et comment on va faire, etc. On peut pas se permettre de s'arrêter une journée, etc. Et ben si. D'ailleurs, voilà, aujourd'hui je me porte très bien, je l'ai fait hier, aujourd'hui je me porte très bien, et puis surtout je me rends compte que ça a apporté énormément à l'équipe, que l'équipe en avait besoin, de ce temps de pause, de recul, d'échange qu'on ne peut pas faire au quotidien parce qu'on est pris par la frénésie du temps, tous en tant qu'on est, et là on s'est payé le luxe de se prendre ce temps-là, et je peux te dire que toute l'équipe est repartie à fond, super contente, et que du coup, en termes de productivité, etc., j'ai pas d'inquiétude. Cette journée perdue, soi-disant perdue, elle est pas perdue, on va la récupérer. Et c'est là où je parle de temps investissement, en fait. C'est un investissement. Le temps que tu passes à prendre du recul, à t'aérer l'esprit et à regarder un peu, tu vois, tu descends du train, tu te mets sur le bord des rails à la gare et tu regardes passer les trains, en fait. Voilà. Et c'est exactement ça, en fait. Tu prends un petit peu d'écart, et là, du coup, tu vois les choses sous une autre perspective, et ça t'aide énormément ensuite pour savoir où tu vas aller. Et donc, c'est le conseil que j'aurais à donner là-dessus, c'est perdez du temps pour en gagner.
C'est magnifique, j'adore.
Non, mais c'est ça.
J'adore. Alors, on va rester un petit peu sur ce domaine. Tu peux choisir ce que tu veux. Si tu avais une 25e heure, justement, dans ta journée, s'il y avait une heure de plus, à quoi aimerais-tu la consacrer?
Ah, c'est difficile. Alors, voilà, moi, je garde quand même mon côté scientifique, en fait. Moi, la blague, tu sais, quand j'ai fini mes études à 30 ans, hein, la blague, quand les gens me disaient « qu'est-ce que tu feras après ?», je leur disais bah, « si je pouvais, je ferais des études toute ma vie ». Bah voilà, moi c'est cette 25e heure, je l'utiliserai pour m'enrichir encore plus, connaître encore mieux le monde qui m'entoure, hein. Donc bouquiner, regarder des documentaires, rencontrer des gens qui m'apportent des choses, assister à des conférences. Aujourd'hui, alors que c'est un peu, c'est même très dommage, hein. Aujourd'hui ici dans des lieux comme le Rooftop, on a pas mal de conférenciers, des animations avec des sujets très intéressants, et je n'assiste pas à toutes ces conférences malheureusement. Donc voilà, je suis toujours un peu frustré de créer les conditions pour que les choses se fassent, mais finalement de pas y participer tout le temps. Donc voilà, je pense que cette 25e heure, ce serait pour m'enrichir encore plus, parce que avoir la carte du monde qui t'entoure, bah, en fait, pour t'orienter, il faut une carte, en fait. Mais du coup, si tu prends pas la peine de regarder, de comprendre quels sont les territoires, etc., eh ben, tu sais pas comment t'orienter, finalement. Tu sais moins bien, hein. Tu y vas un peu plus à tâtons, à l'aveugle, etc. Donc, c'est, voilà, c'est de m'enrichir pour mieux connaître mon environnement, le champ des possibles. Voilà, cette 25e heure, je l'utiliserai comme ça.
Est-ce que tu peux nous parler d'un défi du passé tu as surmonté et bah avec quoi tu l'as surmonté? Qu'est-ce que tu en as tiré aujourd'hui? Quelque chose à partager là-dessus, peut-être pour aider ceux qui sont dans le même genre de défi en ce moment, ou de difficultés dans le monde de l'entrepreneuriat?
Bah, je pense que le plus grand défi, ça a été justement cette rupture. J'aime pas trop le mot rupture parce que dans la réalisation, j'ai fait en sorte que ce soit plutôt lissé et fait par étapes. Mais cette transition forte entre mon activité initiale d'agence de communication et la gestion des espaces de coworking. Parce que là, je passais vraiment d'un monde où financièrement, c'était très facile pour moi, où j'avais tout mis en place, il suffisait de gérer au quotidien, à un monde qui finalement m'intéressait, était éblouissant pour moi, enfin était scintillant et m'attirait, etc., mais qui était encore vraiment qui était l'inconnu. Gérer un espace de coworking, c'est gérer de l'immobilier, c'est concevoir des services, un peu d'hôtellerie, de conciergerie, etc., que je n'avais jamais vraiment fait. Donc, il y avait tout à faire avec des lourds investissements financiers, etc. Et donc, je pense que c'est ça qui a été un de mes plus grands défis. Donc, de me lancer là-dedans et de prendre ces risques-là. Alors, comment j'ai fait? Tout est question de motivation dans la vie. En fait, il faut trouver la motivation. Si tu n'as pas la motivation, c'est tout de suite plus compliqué. Moi, voilà, c'est se fixer un cap et avoir cette motivation pour ce cap. Donc, le cap, on peut tous avoir des caps. Si t'es pas vraiment motivé, ben, tu l'atteindras jamais, ton cap. Tu peux te dire, ben, moi, je veux courir le marathon en 2h30. Mais si tu es pas vraiment motivé, que c'est pas vraiment quelque chose qui t'anime, etc., et que tu veux juste le faire pour impressionner la galerie, etc., tu n'y arriveras pas. Donc, il faut arriver à te fixer le cap. Et derrière, à trouver la motivation et à voir s'il y a vraiment des choses qui t'animent. Donc, est-ce que ça répond à tes valeurs? Est-ce que ça te permettra de t'ouvrir des perspectives? Est-ce que le fait de monter le projet va t'enrichir ou pas? Est-ce que tu vas apprendre des choses si c'est ça qui te plaît? Voilà, est-ce que ça répond à tes besoins? Est-ce que ça t'aligne avec tes valeurs? Donc, c'est vraiment avoir ça à l'esprit, en fait. C'est ça qui te guide et qui t'aide à franchir les moments compliqués, les moments difficiles et qui t'aident à affronter le danger, parce que du danger, il y en a toujours. Mais moi, je sais qu'une de mes motivations aussi, c'est que le danger, il est beaucoup dans la stagnation, dans l'immobilisme. Et donc,
Ça, c'est vraiment intéressant.
aller de l'avant, ça a toujours été pour moi une motivation et donc une énergie que je pouvais mettre au service de mes nouveaux projets finalement.
Donc, hein, c'est vraiment intéressant ce que tu nous partages. Hein. Le côté être dans l'attente, c'est peut-être là qui est le plus grand danger. C'est bien
C'est
ce que
ça.
tu veux passer comme
C'est
message. Hein.
ça.
Ça, c'est vraiment très, très intéressant, vraiment à méditer. Alors, aujourd'hui, quels sont tes. Tu nous as parlé tout à l'heure de quelque chose, mais je vais voir ce que tu peux nous dire là-dessus. Quel est ton défi actuel et ta motivation forte actuelle du moment?
Ouais, alors mon défi, il se décompose en plusieurs parties. Un des défis, c'est d'ailleurs, voilà, c'est de. Parce que les espaces de coworking et les espaces partagés ont un modèle économique qui reste très fragile, hein, qui repose sur des lourds investissements et ensuite des coûts de fonctionnement qui sont hyper importants. Et donc se pose la question de leur rentabilité. Donc le premier défi, c'est d'arriver à effectivement rentabiliser mes espaces et à les faire vivre de manière pérenne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est maintenant que les espaces existent, que les services matériels, on va dire, et l'accompagnement matériel a été mis en place, c'est vraiment de continuer à donner de la valeur ajoutée à ces espaces. Et en fait, c'est d'arriver à accomplir, aller jusqu'au bout de ma vision. Et ma vision, en fait, je ne l'ai pas énoncé, mais c'est de fournir aux entrepreneurs un écosystème, tout un écosystème, qui est propice à leur développement personnel, à leur épanouissement personnel et à leur développement professionnel. Donc, c'est de construire cet écosystème. Écosystème qui va être constitué certes de locaux, certes de services matériels, mais aussi d'animation, d'une communauté, d'intégration à une communauté professionnelle qui va leur permettre tous ces échanges, ces opportunités de business, etc. Des opportunités de monter en compétences avec de la formation. Donc, tu connais très bien, on est en train de monter l'organisme de formation qui maintenant est certifié Calliope depuis un an, la Rooftop Business Academy, de leur proposer en fait un accompagnement global à la carte, composé de différentes choses qu'on sait faire, qu'on sait leur proposer, qui peuvent être de l'hébergement professionnel, du mentorat, du coaching, de la formation, des animations, du réseautage. Toutes ces choses dans lesquelles ils vont pouvoir puiser et qu'on va pouvoir leur proposer si c'est pertinent pour leur permettre de se développer. En fait, c'est ce que j'appelle l'écosystème. Donc, c'est de passer d'un lieu physique à un écosystème de services et d'accompagnement. Donc, c'est ça je dirais, ma motivation, ma vision et du coup, mon défi d'aujourd'hui.
Ouais, mais très 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 beau défi. Moi, j'ai le plaisir d'y participer et d'être bien aligné avec tes valeurs. Alors, aujourd'hui, de quoi te sens-tu le plus fier? Parce que bon, voilà, t'es plus bon, t'es encore jeune, hein, bon, je vois un petit peu de blanc sur les cheveux, mais il y a eu un peu de chemin
Bon,
parcouru,
c'est
donc.
bon, en podcast, ça se voit pas.
Ça se voit. Ouais. De quoi es-tu le plus fier aujourd'hui?
Ah, c'est compliqué. C'est très difficile de répondre à ça. Je sais pas si je suis vraiment fier
Mais
de
sois pas trop humble, hein.
Non.
Voilà. Tu peux y aller, t'as fait des sacrées belles choses.
Bah, je pense que si je peux être fier de quelque chose, c'est effectivement de mon parcours, qui est assez atypique, et un peu de on va dire, de ma souplesse. La souplesse qui m'a permis justement d'aller d'étape en étape, de franchir des barrières qui sont pas forcément franchi par beaucoup, parce qu'en fait, il y a les préjugés, il y a le déterminisme de tes études, de ton milieu social, etc. Et voilà, je pense que ma fierté, c'est d'avoir réussi à ne pas rester à la place qui semblait la plus évidente, en fait, ou la plus facile. Voilà. Et d'avoir à chaque fois essayé de me positionner ailleurs parce que je pressentais que c'était meilleur pour moi. Donc je pense que c'est ça ma plus grande fierté. Après, bien sûr, Tu vois, je vais te donner un exemple. Quand on gère les choses au quotidien, on ne s'aperçoit pas forcément de ce qu'on a mis en place. Et par exemple, pour parler du rooftop de Viry, hein, l'espace de coworking où on est actuellement, je t'ai parlé du séminaire qu'on a organisé hier. Et ben, hier, j'ai été amené du coup à utiliser mon espace de coworking en tant qu'utilisateur comme l'utilisent mes coworkers. On a fait des séances de méditation dans notre cozy work, notre salle super sympa, hyper agréable. On s'est fait des séminaires, et des présentations, et notamment la présentation que tu nous as fait, Cédric, sur les personnalités dans une belle salle de réunion, tout équipée, etc. Et là, j'ai vu mon espace comme le voient en fait mes coworkers et mes clients finalement. Et là, je me suis dit, ça m'a fait un petit choc. Je me suis dit, mais oui, mais finalement, ce que tu as mis en place, c'est super fonctionnel, c'est super agréable, on s'y sent bien. En fait, c'est un lieu où on se sent bien. Et si tu veux, il a fallu que je me mette à la place de mes clients pour de vrai, pour que je m'en aperçoive. Et là, du coup, je peux te le dire, je me suis senti fier de ce que j'ai mis en place. Voilà, quand je vois un bâtiment, un lieu qui était sous-exploité, qui était en jachère, etc., et que je vois que 2 ans plus tard, eh ben, c'est plutôt beau, c'est bien décoré, il y a toutes les fonctionnalités, tous les services en place, qu'on s'est fréquenté au quotidien par une trentaine d'entrepreneurs, que les gens sortent, ont la banane, bah oui, je me sens un petit peu fier, ouais. En tout cas, je ne sais pas si on peut parler de fierté, mais ça me nourrit en tout cas. C'est ce qui me nourrit. Voilà.
Carrément, tu vois, j'en reste à t'écouter bouche bée. quels sont, est-ce que tu as des livres que tu aimerais nous partager qui t'ont un petit peu soutenu ce que tu lis?
Alors,
Est-ce qu'il y a des livres importants pour toi? Tu voudrais nous
je
dire,
ne.
bah tiens, il y a deux, trois livres là quand même, ça vaut le coup d'y jeter un coup d'œil et même un peu plus.
Ouais, je ne lis pas beaucoup. Je ne lis plus beaucoup, en fait. Parce que du coup, mes activités professionnelles et personnelles me prennent beaucoup de place. Après, te citer un livre comme ça.
Alors, si c'est pas un livre, ça peut être peut-être quelque chose, une lecture d'un journal, ou enfin, je sais pas, quelque chose que tu aimerais partager
Ah, pourtant,
d'autre.
il y a plein de choses qui m'ont marqué, hein. J'ai du mal à te les citer comme ça. Écoute, je vais te parler d'un livre, je pense, qui a été un peu un déclencheur chez moi. Je ne crois pas bien me souvenir du titre. Je pense que c'était Mes vertes années, quelque chose comme ça. Il faudrait que je te retrouve
On fera une
le
recherche, puis on le
voilà.
mettra dans la
Et en fait,
description.
c'est l'histoire, en fait, d'un jeune, un tout jeune ado, en fait, qui a plein de problèmes, qui vit au Royaume-Uni, je crois que c'est en Irlande, et qui se cherche, en fait, et qui doit avoir 13-14 ans, et qui se découvre une passion pour la biochimie, justement, pour les études scientifiques, etc., et qui du coup sort de son milieu social défavorisé, d'un milieu rural très pauvre, très peu cultivé, etc. Et c'est l'histoire d'une ascension comme ça par quelqu'un. Et en fait, ce livre que j'ai lu, j'avais à peu près l'âge du personnage, du héros. Je devais avoir 13-14 ans. Et en fait, je pense que ce livre a été un point de départ pour moi, une espèce de révélation. Où je me suis dit, bah, et voilà, il m'a ouvert le champ des possibles. Et donc, ce personnage dans le livre, après, bah, lui, il choisit la voie scientifique et il y reste, il devient un grand scientifique, etc. Ça n'a pas été mon cas, mais en fait, ça a été un moyen de le sortir d'une condition et il s'est battu. On voit son combat pour y arriver, pour avoir des bourses d'études, voilà, pour aller toujours un cran plus haut, en fait. Et ça m'a marqué, je pense. Je pense pas en avoir eu conscience, mais mon inconscient l'a bien imprimé, et je m'en suis souvenu il y a quelques années de ce bouquin, et ça m'a sauté au visage comme un peu le parallélisme et le fait que ça avait été un peu déterminant, en fait, la lecture de ce bouquin. Voilà. Voilà ce que j'avais envie du coup, de partager avec
Merci.
toi pour répondre à ta question.
C'est vraiment intéressant. Dans un autre domaine, s'il y avait, je dirais, aucun frein financier, aucun frein politique, si tu pouvais demain, là, racheter une grande boîte, quelque chose qui a vraiment de l'impact, ça serait qui? Ça serait quelle boîte? Et puis, ça serait peut-être quoi ta patte? Alors, grande question, hein. Si tu avais là tout pouvoir d'un coup sur une boîte, une grande entreprise.
Alors, je vais te le dire sans... Là, c'est sûr, hein, pour moi, mon rêve, ça serait de racheter Regus, qui est le numéro un de l'offre de bureau, et de lui donner une âme. Voilà.
Un bon entendeur.
Voilà. Alors, sans prétention aucune. En fait, Regus, c'est une boîte qui est le numéro un mondial de l'offre de bureau aujourd'hui.
Oui.
Qui est très bon dans de la location de bureaux, justement,
ouais.
dans de la mise à disposition d'espaces de travail, mais qui n'a pas d'âme, en fait, qui propose des lieux sans âme et qui ne propose pas, justement, tout cet accompagnement dont peut avoir besoin l'entrepreneur. Et donc, et pourtant, ils ont les moyens, mais c'est sûrement peut-être plus rentable pour eux, voilà, pour des questions financières, etc. Mais voilà, j'aimerais bien avoir cette force de frappe en termes d'impact. Mais y ajouter ma patte, en fait, et la valeur ajoutée de l'accompagnement de l'entrepreneur. Voilà, ça serait mon rêve.
Je trouve que ça résume vraiment très, très bien tout ton partage et tout ce que tu apportes avec les différents lieux. C'est qu'il y a une âme, il y a vraiment des humains, du partage, il y a une réalité.
C'est ça.
Une réalité de soutien.
Ouais.
Eh bien, écoute, hein. Ça pourrait être pas mal.
Bon, écoute, on se donne rendez-vous dans 5 ans et puis voir si j'ai réussi à faire ça.
Tout à fait. Bon, bah, écoute, mais pour un peu finir cet entretien, est-ce qu'il y a une question que j'aurais dû te poser, peut-être sur l'entrepreneuriat ou sur un sujet, tu dis, tiens, moi j'aimerais partager ça.
On n'a pas parlé de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
C'est vrai. C'est vrai, j'en parle très souvent, j'en parle beaucoup.
Et c'est pour ça que je me permets de...
parler.
Voilà. Et donc voilà, ça me paraît être très important pour moi.
Ouais.
Pour moi, ça l'est. Ça l'est bah, déjà pour ton entourage, t'investir dans ta famille, dans tes proches, etc. Et c'est super important. Et ça l'est pour soi égoïstement, parce qu'en fait, on ne peut pas se réaliser qu'à travers son activité professionnelle. En fait, c'est vraiment un équilibre à trouver entre les deux, et l'un nourrit l'autre, en fait, finalement.
Ouais.
Et si je me permets d'évoquer ce sujet-là avec toi aujourd'hui, c'est parce que c'est souvent une problématique dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que on a tendance, notamment au démarrage ou dans les moments de crise, à mettre toute son énergie dans son entreprise, dans son activité professionnelle, et puis finalement, eh ben, on néglige le côté familial, mais on oublie que c'est une des quatre roues de la voiture. Enfin, que ça, du coup, tu te déséquilibres si tu as plus ce soutien-là, et voilà. Donc, voilà, c'était juste de faire un petit aparté là-dessus pour dire que. De même qu'il faut accepter, comme je le disais tout à l'heure, de perdre du temps pour en gagner, eh ben, il faut pas négliger en fait les autres dimensions de sa vie, sa vie familiale, mais aussi sa vie personnelle, soigner son corps, faire du sport, de l'activité physique, etc. Et prendre le temps pour soi, prendre le temps pour ses proches et prendre le temps pour soi. Et ça sera beaucoup plus facile de gérer son activité professionnelle.
Merci beaucoup, Stéphane.
Bah, merci, Cédric.
C'était un réel plaisir. Et puis, bah, je pense qu'on se dit à très bientôt.
À très bientôt, Cédric. Merci encore.
Merci.